VOA Afrique. Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour, Le Monde aujourd'hui, édition du mardi 4 février 2020. En direct de Washington, Idrissa Sidoudia
et Anne Albertson.
Nous commençons par les titres.
Au Burkina Faso, incertitude sur la grève illimitée des policiers annoncée pour aujourd'hui.
En Guinée, nouveau report des législatives. Prévues pour le 16 février, elles sont maintenant programmées pour le 1er mars.
En République démocratique du Congo, détention d'un opposant proche de Martin Fayoulou pour outrage au président Félix Tshisekedi.
Au Malawi, chose plutôt rare en Afrique, la Cour constitutionnelle annule la présidentielle de 2019.
Un malade atteint du nouveau coronavirus est décédé à Hong Kong, le second hors de Chine continentale, où le bilan se monte à 425 morts.
Ici aux États-Unis, coup d'envoi hier des primaires démocrates avec les caucus de l'Iowa. Retard dans la publication des résultats.
Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco.
Pour l'instant, le journal.
Au Burkina Faso, on se demande si les policiers vont maintenant aller en grève illimitée ce mardi, comme promis. La réponse n'est plus vraiment certaine après une rencontre de dernière minute hier soir avec le Premier ministre Christophe Dabiré. Rencontre à l'issue de laquelle les policiers ont semblé admettre des erreurs de communication sans dire s'ils suspendaient leur grève. De Ouagadougou, les précisions de notre correspondant Lamine Traoré.
L'UNAPOL, Union Police Nationale, un syndicat de policiers demande le départ du ministre de la Sécurité et l'indemnisation des familles des policiers décédés dans les attaques terroristes. Elle compte donc aller en grève illimitée à partir de ce mardi. Notre ministère est incapable et manque de volonté à indemniser les familles de policiers décédés au cours d'attaques terroristes, a dit le secrétaire général du syndicat, Armiaï Zongo. Aussi, le syndicat, sans donner plus de précision, a demandé le départ de leur ministre. Mais seulement 3 heures de temps après cette déclaration, le syndicat a été reçu par le Premier ministre Christophe Dabiré et le ton a semblé changer. Il y a eu un déficit sérieux de communication qui nous a amené à peut-être accuser notre ministre de ce dont il n'est pas à l'origine. Certains des points évoqués ne relevaient même pas de notre ministère, parce que le ministre a fait son travail en transmettant les dossiers là où il faut, qui étaient en souffrance à un moment plus élevé, déclare un responsable du syndicat après l'audience avec le chef du gouvernement. J'ai grand espoir que le mot d'ordre de grève annoncé sera levé pour l'intérêt supérieur de la nation. Ces menaces de grève des policiers ont lieu pendant que le pays connaît une situation sécuritaire de plus en plus difficile. 18 personnes ont été tuées samedi à Lamdamol, dans le Sahel. Lamine Traoré, Ouagadougou, VOA Afrique.
En Guinée, report au 1er mars des législatives qui étaient prévues le 16 février. C'est ce qui ressort d'un décret du président Alpha Condé, lu lundi soir à la télévision. Le pays est en proie à une agitation meurtrière contre l'intention prêtée à M. Condé de briguer un troisième mandat en 2020. L'actuel Parlement est entré en fonction en janvier 2014 pour 5 ans. Des élections devaient se tenir fin 2018 ou début 2019, mais n'ont pas eu lieu pour des raisons politiques et techniques, au milieu de querelles exacerbées entre la majorité et l'opposition.
En République démocratique du Congo, un opposant proche de Martin Fayoulou est détenu depuis 6 jours, accusé d'outrage au président Félix Tshisekedi. Des détails avec Claire Morin-Gibourg.
Luc Malembe, porte-parole de la coalition Lamouka en Ituri, est en détention depuis le 29 janvier, selon son avocat Rodrigue Oubouya. Il est accusé d'outrage au chef de l'État pour avoir déclaré à la presse le 24 janvier que le pays venait d'enregistrer une année de gâchis alors que le peuple attendait une vraie alternance, explique Maître Oubouya. Le 24 janvier était le premier anniversaire de l'investiture de Félix Tshisekedi comme président. Luc Malembe a d'abord été détenu par l'Agence nationale des renseignements avant d'être transféré à la prison centrale de Bounia, toujours selon son avocat. Le parquet a confirmé son arrestation mais a refusé d'en préciser les motifs. La coalition Lamouka avait soutenu la candidature de Martin Fayoulou à la présidentielle. Ce dernier continue de revendiquer la victoire. Issu de l'opposition, Félix Tshisekedi a notamment promis de travailler pour l'amélioration de la situation des droits de l'homme dans son pays.
Dans une décision historique très rare sur le continent africain, la Cour constitutionnelle du Malawi a annulé hier la réélection du président sortant Pete Mutharika. La Haute Cour malawite a ordonné la tenue d'un nouveau scrutin présidentiel dans les 5 mois. Le point avec Abdourahmane Dia.
Nous considérons que Pete Mutharika n'a pas été dûment élu le 21 mai 2019. En conséquence, nous annulons les résultats de l'élection présidentielle, a estimé la Cour dans un jugement de 500 pages. Elle a ordonné l'organisation d'un nouveau scrutin dans un délai de 5 mois. La Cour a estimé que des officiers électoraux ont utilisé l'outil PEX, un fluide correcteur blanc, pour falsifier des votes. La Cour a aussi noté que seul un quart des procès-verbaux ont été vérifiés. Pour prendre une décision aussi importante, les juges ont été amenés sur place dans un véhicule blindé à Lilongwe et les forces de sécurité avaient bouclé les environs de la Haute Cour. Pete Mutharika, au pouvoir depuis 2014, a été proclamé vainqueur l'an dernier face à Lazarus Chakwera, leader de l'opposition. Ce dernier et Saulos Chilima, arrivé troisième, avaient immédiatement saisi la Cour constitutionnelle pour demander l'annulation du scrutin. En 2017, la Cour suprême du Kenya avait invalidé pour irrégularité la réélection du président Uhuru Kenyatta et ordonné la tenue d'un nouveau scrutin dans les 2 mois, ce qui était une première sur le continent.
L'ancien président kényan Daniel Arap Moi, qui a dirigé le pays d'une main de fer entre 1978 et 2002, est décédé ce matin à l'âge de 96 ans, a annoncé l'actuel président Uhuru Kenyatta. Le président a ordonné que le pays observe un deuil national jusqu'aux funérailles, qui seront des funérailles d'État et dont la date doit encore être déterminée.
Le Nigeria va recevoir 308 millions de dollars saisis à l'ancien dictateur Sani Abacha au terme d'un accord conclu sous l'égide des États-Unis et du paradis fiscal de Jersey. Ont indiqué lundi les procureurs américains, cette somme est le fruit de la corruption qui sévissait au Nigeria sous le régime du général Abacha dans les années 90. Ce dictateur a dirigé le pays de 1993 à sa mort en 1998. À l'âge de 54 ans.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Les autorités sanitaires américaines ont défendu hier la décision de fermer les frontières aux voyageurs s'étant rendus récemment en Chine en raison de l'épidémie de coronavirus. C'était en réaction aux accusations de Pékin selon lesquelles les États-Unis étaient en train de créer un climat de panique. Le point avec Irénée Herman Umbo.
La situation est sans précédent. Nous prenons des mesures volontaristes, a dit Nancy Messonnier, directrice des maladies respiratoires au Centre de contrôle et de prévention des maladies CDC. Il y a quelques semaines, il y avait 41 cas de coronavirus en Chine. Maintenant, il y en a plus de 17 000. Washington cherche à ralentir la propagation. Le département d'État va ramener plus de monde de Wuhan, a indiqué Mme Messonnier. Hier, Pékin a fermement critiqué Washington pour avoir sonné la charge des restrictions en raison du coronavirus. La Chine accuse les États-Unis de créer et semer la panique. Il y a 11 cas confirmés aux États-Unis.
Et le bilan de l'épidémie en Chine est monté à 425 morts après 64 nouveaux décès annoncés aujourd'hui par le gouvernement qui a admis des insuffisances dans sa réaction à la crise sanitaire. Le nombre de personnes contaminées a dépassé 20 400 dans le pays après l'apparition de 3 235 nouveaux cas confirmés, a précisé mardi la Commission nationale de la santé. Et un Hong Kongais est devenu mardi la seconde personne décédée hors de Chine continentale.
Au procès en décès du président Donald Trump ici à Washington, l'accusation et la défense ont ferraillé une dernière fois hier au Sénat, à 2 jours de son probable acquittement, dans l'espoir de convaincre un ou deux élus de sortir des rangs de leur parti. L'issue du procès fait peu de doute. La Constitution impose une majorité de 2/3 pour destituer un président et les 53 élus républicains font pour l'instant bloc derrière M. Trump. C'est la majorité qui doit prononcer ce soir donc, M. Trump doit prononcer ce soir devant les deux chambres réunies du Congrès son traditionnel discours sur l'état de l'Union.
Et puis le marathon des primaires pour désigner le démocrate qui affrontera le président Trump à la présidentielle de 2020 a commencé lundi soir avec un vote indécis dans l'Iowa où Bernie Sanders faisait figure de favori. 3 heures après le coup d'envoi, les résultats ne tombaient qu'au compte-gouttes, le parti démocrate expliquant vouloir s'assurer de leur fiabilité avant de les publier. Et nous retrouverons notre envoyé spécial Dilidico en seconde partie de cette édition. Fin de ce journal sur VOA Afrique, vous écoutez Le Monde aujourd'hui.
La Minute Éco, Nanit Talani.
À l'occasion du forum économique à Londres, le président congolais Félix Tshisekedi a invité les entreprises britanniques à investir en RDC. Kinshasa y a signé un contrat avec la société britannique Bbox pour fournir de l'électricité à 10 millions de Congolais au cours des 4 prochaines années. La RDC est riche en ressources telles que le coltan, le cuivre, l'or, le diamant, le cobalt, le lithium et les terres rares. Elle possède également d'importantes réserves d'eau douce, de ressources forestières, une riche biodiversité et des terres arables. Son potentiel énergétique est estimé à plus de 100 000 MW. Le baril de Brent est repassé sous la barre symbolique des $60. Sur un mois, il a perdu 11,9%, enregistrant ainsi sa plus importante baisse depuis novembre 2018. Les cours du pétrole accusent une forte baisse depuis le début de l'année, fragilisée par les inquiétudes pour l'économie chinoise qui tourne au ralenti en raison de l'épidémie du nouveau coronavirus. Pour terminer, les Émirats arabes unis, déjà riches en pétrole, ont annoncé lundi une importante découverte d'environ 2200 milliards de mètres cubes de gaz. Cette nouvelle découverte renforce l'objectif de cet État du Golfe d'atteindre l'autosuffisance en gaz. En novembre, Abu Dhabi avait déjà annoncé d'autres découvertes d'environ 1600 milliards de mètres cubes de gaz et de 7 milliards de barils de pétrole, ce qui lui donne des réserves de pétrole de 105 milliards de barils. Les Émirats deviennent ainsi les 6e réserves mondiales de pétrole devant celle du Koweït.
Les sports à présent avec Yacouba Ouédraogo. Yacouba, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
Nouveau record d'Afrique pour Hugues Fabrice Zango.
Oui, pour son premier meeting en 2020, le Burkinabé a établi un nouveau record du triple saut d'Afrique à Paris, 17,77 m. En 2019 déjà, Hugues Fabrice Zango avait établi un nouveau record du continent à 17,58 m sur le même meeting de Bercy. Avec ce bond, il devient le 4e performeur mondial de l'histoire en salle. Entraîné par le français Teddy Tamgo, Fabrice Zango n'est plus qu'à 15 cm de son coach et voudrait définitivement faire tomber cette performance aux prochains Jeux Olympiques Tokyo 2020.
Alors l'objectif c'est clairement de sauter aussi loin, en fait, j'ai pas d'objectif de performance à Tokyo. Pour moi en fait c'est de sauter ce qu'il faut en fait pour gagner la médaille d'or. Du coup on se prépare à tous les cas de figure pour que si finalement il y a quelqu'un qui vient faire, qui va venir faire le record du monde, qu'on puisse quand même le battre en fait ce nouveau record du monde là. Donc on s'entraîne physiquement forcément mais également mentalement pour justement gérer ce genre de cas.
Hugues Fabrice Zango, recordman du triple saut en salle sur le continent.
La Zambie a présenté son nouveau sélectionneur.
Oui, Milutin Sejovic, ancien entraîneur du Zamalek, a signé un contrat de 2 ans. Il remplace le Belge Sven Van der Breek, qui n'avait pas réussi à qualifier les Chipolopolo pour la CAN 2019. Le Serbe aura la lourde tâche de sortir la Zambie d'une situation difficile des éliminatoires de la CAN 2021. Après 2 matchs, l'équipe compte 0 point, 2 défaites contre l'Algérie et le Zimbabwe. La première sortie pour Micho, comme l'a surnommé les Zambiens, ce sera dès le mois prochain lors de la 3e journée des qualifications contre le Botswana. C'est le 3e pays sur le continent que le Serbe va diriger après le Rwanda et l'Ouganda.
Début des quarts de finale de la Coupe du Roi ce soir.
Oui, le vainqueur en titre Valence CF se déplace sur le terrain de Grenade en ouverture. Jeudi, le Real Madrid, leader de la Liga et invaincu depuis 21 matchs, toutes compétitions confondues, tentera d'obtenir son ticket pour les demi-finales contre la Real Sociedad. Retombé à la 8e place du championnat, le FC Barcelone devra renouveler son carton des 8e de finale 5-0 contre Leganés pour tenter de se hisser en demi-finale sur le terrain de l'Athletic Bilbao.
Les pays hôtes des championnats d'Afrique junior de basketball sont connus.
C'est l'Égypte et la Guinée équatoriale qui accueilleront ces championnats. L'épreuve féminine a lieu du 10 au 19 juillet 2020 en Égypte. Les hommes se donneront rendez-vous en Guinée équatoriale du 14 au 23 août. On reste en basketball pour parler de la NBA. publiés avec vous, Idrissa, les résultats de la nuit dernière.
Quelques-uns de ces résultats, Dallas et Indiana 112 à 103, Miami et Philadelphie 137 à 106, Boston et Atlanta 123 à 115, Golden State et Washington 125 à 117, Memphis et Détroit 96 à 82, Brooklyn et Phoenix 119 à 97.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Seloudia, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Donc, ici aux États-Unis, le marathon des primaires pour désigner le démocrate qui affrontera le président Trump à la présidentielle de 2020 a commencé lundi soir avec un vote indécis dans l'Iowa, où Bernie Sanders faisait figure de favori. Trois heures après le coup d'envoi, les résultats ne tombaient qu'au compte-gouttes, le Parti démocrate expliquant vouloir s'assurer de leur fiabilité avant de les publier. Les électeurs réunis dans des caucus ou assemblées organisées dans quelques 1700 salles, écoles ou gymnases, se sont regroupés derrière des tables décorées aux couleurs du candidat de leur choix. Les partisans de ceux qui n'ont pas franchi le seuil de 15% au premier tour pouvaient ensuite rejoindre un autre candidat lors d'un second tour. Mais laissons notre envoyé spécial Dilidico expliquer le processus.
Ces réunions locales, appelées caucus, ont pour objectif de permettre aux habitants de l'Iowa de choisir leur candidat aux primaires. Ce système atypique permet aux participants de discuter entre eux et de faire connaître publiquement leur soutien pour un candidat. Une façon de procéder qui en étonne plus d'un. Boniface est un étudiant camerounais à l'université d'Iowa. Il dit être surpris par l'originalité d'un caucus par rapport à un vote par bulletin.
C'est un truc très étrange pour moi parce que je n'ai pas encore vécu quelque chose comme ça. Et au Cameroun, on n'en a pas, où je suis, on n'a pas des choses comme ça. Et on rejoint dans une salle et on parle à propos des candidats qui vont se battre pour être président et comment la communauté et la population vont marcher. Donc c'est vraiment neuf pour moi.
Pour familiariser les plus jeunes avec le processus du caucus, Hope the Vote, une association étudiante, a organisé une simulation. Dans la salle pleine de participants démocrates, ce supporter de Donald Trump ne passait pas inaperçu. Il a fait savoir qu'il voulait également partager cette expérience, même si Donald Trump est assuré de gagner les primaires républicaines. Parmi les six caucus qui ont lieu aux États-Unis lors des primaires, celui de l'Iowa est donc le premier et le plus connu. Ces résultats ont la capacité d'influencer les votes, et ce, même si l'Iowa n'est pas considéré comme un échantillon représentatif de la population américaine. Dilidico, VOA Afrique, Iowa City.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
En Côte d'Ivoire, comme nous vous le disions hier, le parti au pouvoir tiendra sa réunion en février pour fixer la date de la désignation du candidat pour la prochaine présidentielle, et ce pour citer le président Alassane Ouattara. Il a promis la victoire dès le premier tour du scrutin d'octobre au candidat de son parti, sans pourtant le nommer. Pour en parler, Eric Manirakidza a joint à Abidjan le secrétaire général adjoint à la communication du FPI, Frank Anderson Kouassi.
Dire que, à l'issue de ces élections qui arrivent là, un parti peut gagner au premier tour, mais c'est un rêve. Mais comme le rêve est permis, on peut toujours rêver. Mais en tout état de cause, nous nous battons pour que les conditions soient réunies.
Alassane Ouattara a salué une commission électorale consensuelle.
Il n'y a que M. Ouattara seul qui la trouve consensuelle. Je ne sais pas si on est d'accord sur le sens du mot consensuel. Mais pour ce que je sais, consensus, ça veut dire que toutes les parties prenantes sont d'accord pour que nous empruntons tel ou tel schéma de la commission électorale. Ce qui n'a pas été le cas. Une discussion a été ouverte et très vite, la discussion a été balisé par le pouvoir. Je veux parler des deux plateformes significatives, EDS et la CDRP. C'est EDS qui regroupe un certain nombre de partis dans le FPI et la CDRP qui est une plateforme pilotée par le PDCI-RDA. Ces deux plateformes ont été exclues de cette discussion et M. Ouattara a dessiné une CEI qui est totalement à la solde du pouvoir. C'est ce que l'opposition décrit depuis lors.
Est-ce que la Côte d'Ivoire peut espérer des élections apaisées en octobre, des élections sans Guillaume Soro, sans Laurent Gbagbo, Blaise Goudé et d'autres?
Comment vous pouvez envisager une élection sans et exclure a priori un certain nombre de personnes qui de toute façon se sont déjà déclarées candidats? Je parle de Guillaume Soro. Mais dans tout état de cause, nous, l'opposition significative, nous n'appelons que des élections sans. C'est pour cela que nous demandons que les conditions qui permettent l'organisation des élections apaisées soient réunies. C'est tout ce que nous demandons. Cela suppose qu'il y ait des discussions ouvertes, inclusives, à toutes les parties prenantes à ces élections et que nous soyons d'accord sur les conditions d'organisation de ces élections. Et si ces conditions sont réunies, il n'y a pas de raison que les élections ne soient pas apaisées. Or, nous constatons aujourd'hui que le pouvoir n'a pas l'air de vouloir organiser des élections qui satisfassent toutes les parties prenantes.
Si vos exigences ne sont pas acceptées...
Nous sommes en train de nous battre et faire en sorte que toute la Côte d'Ivoire se mobilise pour qu'elle ne connaisse plus ce qu'elle a connu en 2010. Les Ivoiriens ne veulent plus de traumatismes, ne veulent plus de guerre, ne veulent plus de morts à l'issue des élections. Nous voulons qu'à l'issue d'une élection, il y ait une passation pacifique de pouvoir. C'est ce que le président Laurent Gbagbo a toujours promis. Et nous qui sommes ses partisans, nous sommes dans cette ligne. Nous avons tous intérêt à faire en sorte que ces conditions soient réunies et que les élections soient les plus calmes et les plus apaisées possibles. Que l'une de ces conditions pour nous, pour qu'il y ait la paix et la réconciliation véritable, c'est le retour du président Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire, parce que sa place est ici et non ailleurs. Qu'il soit totalement libéré et qu'il vienne participer à la réconciliation en Côte d'Ivoire. C'est une des conditions sine qua non pour nous, pour les élections apaisées. Il faut que tous les acteurs soient sur le terrain ivoirien pour mener ensemble cette bataille et pour participer à la consolidation de la paix.
Le secrétaire général adjoint à la communication du FPI, Frank Anderson Kwasi.
Restez branchés sur VOA Afrique à Abidjan sur 99.0 FM en Côte d'Ivoire.
En République démocratique du Congo, Kinshasa est secoué ces jours-ci par des affaires de mœurs concernant quelques pasteurs, évangélistes ou encore chantres. C'est ce que nous dit Eddie Sango, qui a joint dans la capitale congolaise le chercheur et professeur de l'histoire des mentalités, Kambayi Boatsha.
Quand vous êtes dans une idéologie chrétienne non sérieusement définie, l'immoralité n'est pas loin. On va justifier l'immoralité par le fait que Dieu veut ainsi. Vous voyez un peu, tandis qu'en Amérique et dans les pays occidentaux en général, vous êtes là vous-même, on est dans une certaine rationalité, tout en croyant que la rationalité n'est pas toujours juste. Parce que l'idéologie qu'on utilise, c'est une idéologie qui n'a pas d'issue. C'est le business, on veut avoir le tout à la fois et au même moment. Voilà, si je peux être bref, c'est le business. C'est ainsi que les églises se coupent. Se multiplie. Aujourd'hui, il est tel isme, demain, il est tel autre isme, hier, il était tel autre isme. C'est le business. Même dans l'église catholique, on est business. Dans l'église protestante, les plus vieilles, on est business. C'est la pauvreté qui fait que nous cherchons le travail pour le développement, mais juste plus.
Mais là, vous n'expliquez pas ce qui peut être derrière ces comportements.
C'est un phénomène. C'est le phénomène de dépouillement. C'est le phénomène de la pauvreté. L'homme est devenu vide. L'homme n'est plus lui-même. On cherche ailleurs les familles, on cherche à trouver des illusions, on cherche les vendeurs des illusions. Ces vendeurs des illusions sont des pasteurs, sont des prêtres.
Sociologiquement, qu'est-ce que représentent aujourd'hui les évangélistes ou les pasteurs dans la société congolaise?
Pour les Congolais, les évangélistes et les pasteurs, aujourd'hui, on les prend comme, excusez-moi le terme, comme les aventuriers, comme les gens qui vendent l'illusion. Et les vendeurs d'illusions aux intérêts. Ceci a atteint même les églises catholiques et les églises protestantes les plus sérieuses.
Quel impact ces comportements peuvent avoir sur ces églises dont certains ont à peine 10 ans d'existence, par exemple, ou viennent de commencer?
On dit qu'il faut travailler. les pasteurs congolais, africains, congolais particulièrement, ne vous envoient pas au travail. On est dans l'église d'intercession de 6h du soir jusqu'à 6h du soir. On vous dit non, ne travaillez pas, croyez seulement. Vous comprenez? On interprète la Bible comme on veut. L'église de prospérité vous dit, priez seulement, vous aurez l'argent.
Les pasteurs ou les évangélistes prêchent la moralité. Mais qu'est-ce qui explique les dépravations de mœurs qui s'affichent ces derniers jours?
Le pasteur au Congo n'a pas pénétré par les études concrètes. Ils prennent la Bible et parlent de la Bible comme étant révélée. Il a été à la montagne, il a été dans le désert, il a été dans la forêt. Selon les intérêts bien précis, il dit aux fidèles, moi je suis allé. Dieu qui est fréquenté par le Seigneur, il enseigne ça. Et quand il enseigne ça chez les pauvres, les analphabètes, on croit immédiatement. Parce que dans le royaume des pauvres, ce sont les bords qui voient plus clair.
Mais apparemment, ils ne sont pas aussi riches que certains les pensent. J'en ai interviewé qui disent qu'ils n'ont pas des jets, ils n'ont pas des villas.
C'est une richesse factice.
Kambayi Boatshia, le chercheur et professeur de l'histoire des mentalités à Kinshasa.
Restez branchés sur VOA Afrique à Kisangani sur 97.7 FM.
La Corne de l'Afrique connaît la pire invasion de criquets pèlerins depuis 25 ans et la pire au Kenya depuis 70 ans. La Somalie a déclaré une urgence nationale. Les criquets pèlerins ont ravagé au moins 11 des 47 comtés du Kenya. Les experts disent que si l'invasion acridienne n'est pas contrôlée, elle pourrait constituer une menace sérieuse pour la sécurité alimentaire dans la région. Le point avec Lionel Gahima.
Le gouvernement somalien a déclaré une urgence nationale face à la recrudescence acridienne. Selon le ministre somalien de l'Agriculture, la première vague de criquets pèlerins a détruit environ 100 000 hectares de terres agricoles et pâturages dans le pays en décembre. Et la deuxième vague sera encore plus destructrice. Des millions de Somaliens dépendent déjà de l'aide humanitaire et les récoltes sont prévues en avril s'il en reste quelque chose. Au Kenya, le fermier Théophilas Kimanzi s'attendait à une bonne récolte cette année. La semaine dernière, il s'est réveillé un matin pour découvrir que le criquet avait dévasté ses champs.
Ils ont fait la fête avec mon maïs, les haricots verts, ils ont même mangé les pastèques. Ils ont également mangé ce qui était destiné à nos vaches et chèvres. Nous ne pouvons rien faire d'autre que de demander de l'aide à l'État.
Des nuages de criquets affamés se sont répandus depuis l'Éthiopie, la Somalie jusqu'au Kenya. L'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture, la FAO, a estimé qu'un seul de ces essaims couvrait une superficie de 2400 km². Des avions les ont pulvérisés dans l'espoir de les empêcher de se propager au Soudan du Sud et à l'Ouganda voisin. Steven Joka, directeur de la FAO pour l'Afrique de l'Est.
En Éthiopie, nous avons déployé deux avions pour faire séparer, mais les criquets sont toujours là. Au Kenya, ils sont arrivés le 28 décembre immédiatement. De concert avec le ministère de l'Agriculture, nous avons déployé deux avions.
Pour les agriculteurs comme Kimanzi, tous les moyens sont bons, comme brûler des pneus ou faire du tapage pour essayer de chasser ces insectes ravageurs. L'autorité intergouvernementale pour le développement a lancé un appel à l'aide. Gouleid Artan du Centre de prévision climatique de l'IGAD.
Si cette situation n'est pas réglée rapidement et atteinte, elle aura un effet grave sur la sécurité alimentaire de la région. Selon le dernier rapport, 27 millions de personnes ont déjà besoin d'une aide alimentaire et si ce n'est pas réglé à temps, ce sera pire.
Selon des experts, cette invasion des criquets est due au changement climatique. John Richard, de l'Institut international de recherche sur l'élevage.
En ce moment, l'invasion des criquets pèlerins est associée à des facteurs environnementaux qui vont de températures plus chaudes au vent qui favorise le déplacement des essaims et ainsi que les pluies qui leur ont été favorables.
L'invasion des sauterelles faisait partie de 10 plaies bibliques d'Égypte. C'est peut-être pourquoi tous les agriculteurs de la région prient pour la fin du cauchemar.
Bonjour, c'est Nathalie Barge pour vous rappeler de ne pas manquer le monde au féminin de VOA Afrique, mardi et samedi à 19h05 temps universel. Le monde au féminin, une émission dans laquelle on aborde les questions qui concernent et préoccupent les femmes et les jeunes. Un espace réservé à tous. Le monde au féminin.
au féminin. Un espace qui donne la parole à celles et ceux qui osent aller de l'avant comme vous. Le Monde au féminin, c'est tous les mardis et samedis à 19h05, temps universel, sur VOA Afrique.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. À la console, Daryl Smith. Merci à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Sidoudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.